Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capiservice. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Qu'est dit la loi congolaise à propos de la garde à vue? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on entend par garde à vue, comment cela doit se faire, et bien pendant combien de temps on peut garder un suspect, et bien on en parle dans cette émission avec notre invité qui sera là tout à l'heure. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Réparation des victimes des violences sexuelles en RDC, comment le Fonarev va s'y prendre? D'ailleurs, une mission d'itinérance a été organisée par une grande délégation du Fonarev dans l'arrière-pays, dans 5 provinces pilotes, pour palper du doigt les réalités, les problèmes auxquels sont confrontés les survivants, les victimes des violences sexuelles. Eh bien, nous allons en parler en long et en large dans la deuxième partie de cette émission avec Monsieur Lucien Lundula, directeur général du Fonarev, qui est le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour participer à cette émission, eh bien, appelez-nous déjà, fidèles auditeurs, au 099, voilà, à ces numéros, non, au 099, voilà, 706-99-41. Appelez à ces numéros-là, 099-706-99-41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler à présent de la garde à vue. En RDC, beaucoup d'abus sont constatés en ce qui concerne l'arrestation d'une personne par la police et sa mise en garde à vue. Pour une affaire des dettes, par exemple, une personne est privée de liberté pendant parfois une semaine. Les membres de la famille qui viennent s'enquérir de la situation sont obligés de payer de l'argent pour entrer en contact avec la personne arrêtée et placée dans des amigos mal entretenus. Alors qu'est-ce qu'on entend par une garde à vue en droit congolais? Pendant combien de temps faut-il garder le suspect en détention? Et que faire lorsque ses droits sont bafoués? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions avec notre invité tout à l'heure, qui est Monsieur Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central, qui est déjà en ligne. Maître Eric, bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati.
C'est plutôt Monsieur Jody, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Comment la loi définit la garde à vue?
La loi congolaise elle-même ne définit pas directement la garde à vue. Et pour en savoir quelque chose, nous interrogeons souvent la doctrine. La doctrine, c'est en fait un ensemble d'opinions émises par des juristes, des savants juristes. La doctrine définit la garde à vue comme étant une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police de sa propre initiative ou sur instruction du ministère public pendant une durée légalement déterminée et sous les contrôles de l'autorité judiciaire, toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction qui soit punie d'une peine d'emprisonnement.
Et généralement, c'est quel genre d'infraction?
De manière générale, ce sont toutes les infractions dont le minimum de la peine et de 6 mois de servitude pénale. Donc, il s'agirait peut-être du vol, abus de confiance, escroquerie, coups et blessures volontaires. La gamme est diverse, elle est variée.
Voilà, donc la personne est arrêtée et gardée à la police pendant combien de temps?
La loi congolaise prévoit que la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures. Donc, le maximum, c'est 48 heures. À dater ou à compter du moment où l'officier de police judiciaire décide de l'arrestation du suspect.
Voilà, ça ne doit pas dépasser 48 heures. Et quel est réellement le but de la garde à vue? C'est de l'entendre ou c'est pour que la personne ne puisse pas s'échapper?
Oui, en fait, la garde à vue a deux buts essentiels. Pallier au risque d'escamoter les preuves, c'est-à-dire pour les réseaux d'enquête, et permettre un interrogatoire efficace. Mais il y a plusieurs autres objectifs, hein, notamment permettre les investigations, comme nous venons de le dire, garantir la présence de la personne poursuivie, et c'est là où il faut insinuer qu'il y a la crainte qu'elle puisse se soustraire, empêcher justement à cette personne de faire pression sur les témoins, sur les victimes, sur leur famille ou sur leurs proches, empêcher que cette personne ne se concerte avec d'autres potentiels suspects qui seraient corrompteurs ou complices. Et donc, voilà un peu les buts ou objectifs de la garde à vue.
Mmh. Et comment doit se faire cette garde à vue, maître?
La garde à vue, elle est décidée par l'officier de police judiciaire qui dresse un procès verbal. Généralement, on le nomme procès verbal de saisie des prévenus, mais le contenu, il est le plus intéressant parce qu'il doit renseigner l'infraction pour laquelle la personne gardée à vue est poursuivie. Il doit renseigner le motif qui a nécessité cette mesure de garde à vue, étant entendu que selon la loi congolaise, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. On ne peut donc recourir qu'à la garde à vue, à titre exceptionnel. Donc, il doit être renseigné dans ces procès-verbales-là les raisons pour lesquelles l'officier de police judiciaire estime devoir mettre la main sur l'inculpé, voudrais-je dire, vraiment pendant cette durée des enquêtes.
Bien, nous parlons de la garde à vue. Qu'est-ce que dit la loi congolaise à ce sujet? Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central, et notre invité, vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, composez le 099-706-99-41. 099-706-99-41. Alors, Maître Eric, quels sont les abus qui sont souvent constatés en ce qui concerne la garde à vue?
Écoutez, les abus, il y en a plusieurs. Le premier abus que nous pouvons cristalliser, c'est le fait le fait pour certains OPJ de faire de la garde à vue une procédure ou un motif pour se faire une santé financière. Donc, on place quelqu'un en garde à vue juste pour obliger cette personne à soudoyer, à payer quelque chose et à arracher sa liberté. Il y a aussi des abus dans le respect ou l'inobservance des délais. On remarque parfois que la garde à vue dépasse 48 heures. Il y a également des abus par rapport aux conditions des détentions qui, soit dit en passant, doivent respecter la dignité humaine. Souvent, cela n'est pas respecté. C'est comme ça d'ailleurs que le législateur prévoit une inspection régulière de ces amigos-là où les détenus sont placés en garde à vue pour s'assurer justement de toutes ces conditions-là. Il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus tendant au délai, tendant aux conditions d'incarcération, tendant à l'exigence des sommes faramineuses pour obliger les personnes gardées à vue à arracher leur liberté et permettre aux acteurs judiciaires de se faire une santé financière. Ce sont là les abus les plus courants observés.
Mmh. Et lorsqu'on arrête la personne, on l'amène par exemple à la police, qu'est-ce qui doit être fait? On doit d'abord l'entendre sur PV.
Bien sûr, parce qu'en fait, la garde à vue ne précède pas l'audition. La garde à vue est plutôt une conséquence de l'audition. La personne peut avoir été convoquée par une pièce de procédure à se présenter devant l'OPJ. L'OPJ le verbalise, il l'entend, et c'est à l'issue de l'interrogatoire que l'OPJ peut décider de placer cette personne en garde à vue, s'il y a des indices serrés de culpabilité, s'il est d'une identité douteuse ou peu connue, s'il y a crainte qu'elle puisse se soustraire à l'action publique mise en mouvement. Donc, la garde à vue ne précède pas l'arrestation. Il peut aussi se faire que la personne fasse l'objet d'un mandat d'amener. Là, c'est l'apanage du ministère public. Hein. Lorsqu'elle n'a pas répondu aux diverses convocations de l'OPJ, l'OPJ fait la demande du mandat d'amener auprès de l'organe de la loi du ministère public. Et là, on contraint la personne à se présenter. Il ne s'agit pas directement d'une garde à vue, il s'agit juste d'une contrainte visant à faire comparaître la personne suspecte ou la personne à poursuivre. Et ce n'est qu'à l'issue de cette audition que l'OPJ peut décider soit de relâcher cette personne qui aura été amenée par devant lui sur base des mandats d'amener, ou de le placer sous le régime de la garde à vue après qu'on ait juste eu besoin d'un mandat d'amener pour le contraindre à se présenter en cas d'un refus ultérieur de répondre à certaines convocations précédentes.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de ce que dit la loi à propos de la garde à vue. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 099-706-99-41.
Retrouvez le Flash Info de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502 puis le 313 pour ne rien rater de l'actualité du pays. Le Flash Info de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés, vous d'accord?
Que dit la loi congolaise à propos d'une garde à vue? Nous avons en ligne Hervé depuis Lubumbashi. Bonjour. Hervé, bonjour. Bien, Hervé, vous êtes là? Bien, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Nous allons retrouver Hervé dans quelques instants. Depuis la ville de Lubumbashi, nous parlons aujourd'hui de la garde à vue. Que dit la loi congolaise à propos d'une garde à vue? Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central, est notre invité. Maître Eric, alors lorsqu'une personne est gardée, elle est placée en garde à vue, est-ce qu'elle a les droits, par exemple, de communiquer à sa famille, de passer les messages, d'être en contact régulièrement avec sa famille?
Tout à fait, tout à fait. Une personne gardée à vue a des droits parce que elle bénéficie de la présomption d'innocence. Il a le droit d'être informé sur ses droits par l'OPJ. L'OPJ donc informe la personne qu'il garde à vue de ses droits, c'est-à-dire le droit d'être visité par sa famille, le droit à l'assistance d'un avocat conseil.
Un instant, maître, on va accueillir Hervé de Lubumbashi, je reviens à vous tout à l'heure. Hervé, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour aussi à notre invité.
Bien, quelle est votre question?
Bonjour. Ma question, je voudrais savoir, je demande à notre invité maître de nous expliciter. Nous voyons dans les quartiers, dans les milieux où nous vivons, qu'il y a des gens qui sont arrêtés quotidiennement, habituellement, pour par exemple l'endettement. Donc, qui sont gardés dans des amigos de police pour endettement. Justement, c'est là ma question. Que dit la loi par rapport à ça? Est-ce que on peut arrêter quelqu'un pour endettement et la personne peut faire l'objet de garde à vue pour endettement? Et peut-être une autre facette de question, de ma question, c'est en rapport avec le service de l'AMR. Est-ce que le service de l'AMR est habilité à garder quelqu'un à vue? Voilà mes deux préoccupations que je voulais en fait adresser à notre invité, maître. Merci.
Bien, merci Hervé, depuis Lubumbashi. Maître Eric, à vous la parole.
Merci bien. Si j'ai bien compris, monsieur Hervé de Lubumbashi voudrait savoir si on peut arrêter quelqu'un pour une dette,
pour et une placer dette.
Donc en garde à vue.
Oui.
Monsieur Hervé, il n'y a pas de prison pour dette en RDC. La dette n'est pas une infraction. on ne peut arrêter ou placer quelqu'un en garde à vue que lorsque cette personne a commis une infraction prévue et punie par la loi congolaise, le code pénal ou d'autres dispositions pénales pouvant exister dans les différentes matières réglementées. La dette n'étant pas une infraction, c'est à tort que certains considèrent une dette comme abus de confiance. C'est-à-dire, vous me devez de l'argent, vous ne m'avez pas payé dans un certain délai, vous avez, entre guillemets, abusé de ma confiance. Non, non, cela n'existe pas en droit congolais. La dette, c'est un fait civil et le recouvrement se passe par des méthodes civiles ou civilistes, pas par des méthodes policières, pas par une plainte au niveau de la police, parce que la dette n'est pas une infraction. Voilà, Monsieur Hervé.
Voilà, il veut savoir aussi si les services de renseignement peuvent aussi garder en vue un sujet.
Oui, les services de renseignement, en fait, la condition essentielle pour pouvoir garder à vue un suspect, c'est avoir la qualité d'OPJ. Parce qu'en fait, la compétence étant d'attribution, tout OPJ de la police, des services de renseignement, des services... bref, les OPJ, il y en a dans divers secteurs de la vie sociale. Toute personne qui a qualité d'OPJ, soit-il autorité policière ou soit-il autorité d'un service de renseignement, peut décider de placer quelqu'un en garde à vue, mais pour autant qu'il y ait une infraction prévue et punie par le code pénal ou les différentes dispositions répressives qui existent ça et là de manière éparse. Et pas pour des dettes, pour une infraction pénale, oui. On a les conditions prévues par la loi, notamment que cette infraction soit punissable d'au moins 6 mois de servitude pénale principale, et bien d'autres conditions connexes, bien sûr.
Oui, pouvez-vous citer quelques types d'infractions punissables pour 6 mois d'emprisonnement?
Le vol, il est punissable d'au moins 6 mois et de plus 5 ans lorsqu'il est vol simple. Les coups et blessures volontaires, le minimum légal est de 2 ans. L'abus de confiance, l'escroquerie, l'estelionat, qui consiste dans le fait de vendre un bien appartenant à autrui, la destruction méchante. Il y en a plusieurs.
Voilà, il y en a plusieurs. Qu'est dit la loi à propos d'une garde à vue? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Une autre question, est-ce que la personne gardée à vue a le droit d'entrer en contact avec son avocat?
Bien sûr, c'est un droit constitutionnellement garanti. Il a le droit d'entrer en contact avec son avocat. Son avocat a même le droit d'accéder au dossier physique. Ce droit n'est pas consacré par le code des procédures pénales, bien sûr, mais il est consacré par la loi organique sur les barreaux, qui prévoit que l'avocat, dans l'exercice de son ministère, pour pouvoir réunir les éléments de la défense, a le pouvoir, la faculté d'accéder au dossier physique, justement pour confronter les déclarations de son client aux informations contenues dans le dossier, pour pouvoir s'assurer de la légalité ou de la régularité des actes privatifs de liberté. Donc la personne a effectivement le droit d'être en contact avec son avocat conseil, en contact avec sa famille, en contact avec son médecin s'il le désire. Il a le droit de se faire examiner par le médecin. Voilà.
Bien, on va accueillir Madame Claudia depuis Kolwezi dans le Lualaba. Madame Claudia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, allez-y.
En fait, ma préoccupation concerne les 48 heures de garde à vue, comme l'invité vient de le dire. Mais je donne un exemple. La personne est arrêtée le vendredi. Le temps qu'elle soit entendue le lundi, ça va faire plus de 48 heures. Mais bon, je vais donner un petit témoignage avec ce qui est arrivé à mon grand frère. Il était présumé, donc on l'avait arrêté parce qu'il avait été confondu à une autre personne. Il avait été arrêté, je pense, le vendredi. Et le lundi, on devait l'entendre. Mais toutefois, d'abord, le magistrat nous a demandé de donner $50 pour que le dossier soit activé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dossiers. C'était probable qu'il ne soit pas entendu le lundi, parce que c'est le mardi ou le mercredi. Mais on nous avait dit que s'il n'était pas entendu le lundi, on devait l'amener directement à la prison. Alors, on a dû donner les $50 pour activer le dossier. Toute la personne a été entendue. Mais toutes les fois, les week-ends, il a passé en garde à vue. C'était vraiment compliqué. Donc, chaque fois qu'on allait le voir, même pour apporter une bouteille d'eau, il fallait d'abord payer 5 000 francs. Pour apporter un petit déjeuner, il faut donner 5 000 francs. Donc, à chaque fois qu'on lui apportait un repas, il faut donner 5 000 francs. Et puis, les conditions dans lesquelles il devait dormir. C'était, je pense, une pièce là, il y avait beaucoup de personnes. La promiscuité avec des filles, tous sont passés dans un même endroit. Alors, on avait demandé de payer $10 pour qu'ils puissent passer à l'extérieur, comme dans une barza, quelque chose comme ça. Et maintenant, ce qui me préoccupe, c'est que d'abord, la personne avait été innocente. On l'avait juste confondue avec quelqu'un d'autre. Mais toutefois, après l'avoir entendue, on devait encore payer $250 pour qu'elle soit relâchée. Mais tout ça, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Comment fonctionne la justice de votre pays? Aussi les conditions dans lesquelles les personnes sont retenues en garde à vue. Mais c'est vraiment déplorable. Les conditions hygiéniques, en tout cas, tout ça, c'est vraiment pathétique ce qui se passe dans notre pays.
Bien, merci. Merci Madame Claudia pour ce témoignage. Voilà, et son propre grand frère qui a été gardé à vue. Maître, vous avez suivi la préoccupation de Madame Claudia. Un instant, je vais lire un autre message. Bonjour ma radio, Jean Tadé depuis Likasi. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour la dette reconnue et déjà payée à moitié? Mon professeur fut arrêté à l'école par les policiers à cause d'une dette dont il avait déjà payé une partie. Vous avez la parole, maître.
Je l'ai dit tout à l'heure que la dette n'est pas une infraction et donc il est hors de question d'arrêter pour une dette. Il est hors de question d'arrêter pour une dette, pour autant que ça soit vraiment une dette au sens juridique. Une dette reste une dette, elle ne donne pas lieu à une arrestation ou à une garde à vue. Alors pour Madame Claudia, qui a fait un témoignage poignant, je pense que c'est un autre cas de figure. Lorsqu'il parle, elle parle, voudrais-je dire, du magistrat qui a reçu son frère en état d'arrestation vendredi pour ne l'entendre que lundi. Mmh. Là, il ne s'est pas agi d'une garde à vue. Il doit s'être agi d'un décernement d'un mandat d'amener. Il doit s'être agi d'un mandat d'amener décerné contre son frère. Il aurait été amené au parquet, parce que nous l'avons dit en amont que la garde à vue, c'est l'apanage des officiers des polices judiciaires, qui ne sont pas à confondre avec les magistrats, qui sont des officiers du ministère public. Alors, dans le cas de figure, lorsqu'un magistrat décerne un mandat d'amener et que l'intéressé est acheminé, après avoir été appréhendé, il est acheminé dans les locaux du magistrat, dans les locaux du parquet, le magistrat a l'obligation légale de l'entendre le plus rapidement possible. Il n'y a pas de raison plausible qu'on entende quelqu'un seulement lundi, après l'avoir arrêté sur base d'un mandat d'amener, je présume, tel qu'elle a expliqué le cas, vendredi. Est-ce que le magistrat n'a vraiment pas eu le temps matériel nécessaire? Il a eu tellement trop de chats à fouetter qu'il n'a pas pu entendre l'intéressé vendredi, encore moins samedi, pour ne l'entendre que lundi. Là, c'est une question qui reste ouverte.
Et si c'est la police, c'est la police qui l'a arrêté vendredi pour être entendu lundi, c'est déjà au-delà des 48 heures.
Tout à fait, tout à fait. Et je l'ai dit, la police peut solliciter du ministère public l'obtention des mandats d'amener pour contraindre un présumé auteur d'une infraction à se présenter devant l'officier instructeur. Alors, aussitôt que la personne est acheminée devant l'OPJ, l'OPJ a le devoir de l'entendre pour apprécier de l'opportunité soit de le relâcher ou de la nécessité impérieuse de le placer en garde à vue. Donc, le temps que monsieur a passé entre les mains des agents du parquet ou dans les amigos dans les locaux du parquet de vendredi à lundi n'est pas à considérer comme une garde à vue. parce que c'est une mesure qui n'a pas été décidée par un officier de police judiciaire et ça n'a pas été consécutif à une audition sur les faits lui reprochés pour pouvoir déboucher sur la nécessité de l'arrêter. Donc, il doit avoir été appréhendé, arrêté sur base d'un mandat d'amener pour être acheminé au parquet puisqu'elle a parlé du magistrat. Les magistrats avaient l'obligation de l'entendre, en tout cas dans les meilleurs délais, si pas aussitôt arrivé dans son office. Et s'il a eu d'autres charges de son ministère à faire, il ne pouvait l'entendre que le plus tôt possible, le plus tôt possible. Alors, si c'est par caprice pour se faire payer de l'argent, $20, $250 et tout, comme madame dit, qu'on s'était rendu compte que c'était, il y avait erreur sur la personne, que son frère aurait été innocenté, que c'était une autre personne qui était recherchée, qui aurait commis des infractions, il n'y aurait pas eu raison de payer $250. C'est à quel titre d'ailleurs? C'est à quel titre d'ailleurs? Donc, il y a des abus qui se commettent. Les conditions de salubrité, nous en avons parlé. La personne gardée à vue doit être dans des conditions qui préservent sa dignité, qui préservent sa santé physique, sa santé mentale. Elle a droit à la visite, en principe, sans exigences de payer $10, $5, 1000 francs, ou que sais-je encore, pour avoir accès à lui ou pour juste lui glisser quelque chose à manger. Ce sont là les abus que l'on constate. Lorsqu'on arrive à rendre visite à quelqu'un qui est en garde à vue, les policiers commis à la garde de l'Amigo exigent de l'argent pour pouvoir vous donner accès à votre frère, à votre bref, à la personne gardée à vue.
Même quand les membres de la famille apportent la nourriture, il faut débourser 5000 francs.
Ce sont des abus qu'il faut dénoncer, fustiger. Lorsque vous réunissez dans le cas d'espèce une preuve de cette exigence-là, il y a lieu de s'en plaindre. Ce sont des atteintes portées aux droits garantis aux particuliers. Parce que tous les droits qui sont garantis aux particuliers, soit par la Constitution, soit par les autres instruments nationaux, internationaux, ils sont protégés par l'État. L'État concourt à leur mise en œuvre et les agents de l'État ne peuvent pas naviguer à contre-courant de ces droits reconnus. Sinon, ils tombent sous les coups de la prévention qui est prévue par le Code pénal, je crois l'article 180, si je ne me trompe, l'atteinte aux droits garantis aux particuliers commis par les fonctionnaires.
Bien, on va accueillir Kaboulo depuis l'ICASI. Bonjour. Kaboulo, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne. Nous avons un message de Blaise Mpinda de Kananga. Est-ce qu'on peut arrêter une personne à 16 heures? Aujourd'hui, on voit des arrestations même à 17 heures. Est-ce que c'est prévu par la loi, maître?
Une arrestation ne peut pas se faire avant 5 heures du matin et après 20 heures. Arrêter quelqu'un à 16h30, c'est toujours possible. C'est toujours possible de le faire. C'est légal. Les heures sont réglementées.
Bien. Merci. Les heures sont réglementées. On ne peut pas arrêter quelqu'un à ces heures-là. Nous parlons aujourd'hui de ce que dit la loi congolaise à propos d'une garde à vue. Comment ça doit se faire? Pendant combien de temps garder une personne? Voilà. Alors pour le cas par exemple du frère de Madame Claudia, à la fin on s'est rendu compte qu'il était innocent, que cette personne était innocente. Est-ce que à son tour elle peut porter plainte?
Oui, à son tour, celui qui a été innocenté peut porter plainte. Mais évidemment, faut savoir déterminer la cible de cette plainte. Est-ce le plaignant sur base de la plainte de qui l'action a été mise en mouvement? Ou c'est le magistrat qui doit être la cible? Là, c'est à nuancer. S'il s'avère que le plaignant a effectivement ciblé le frère de maman Claudia dans sa plainte, là, c'est ce plaignant-là qui serait passible d'une prévention appelée dénonciation calomnieuse. C'est une infraction qui consiste dans le fait de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire des faits faux à charge de quelqu'un. Donc bref, il faut que la fausseté des faits allégués ait été établie. soit par un jugement d'acquittement, soit par un refus de poursuivre du procureur, lequel refus viendrait du fait que le procureur est convaincu que la personne est innocente et il classe les dossiers sans suite, faute d'éléments constitutifs de l'infraction. Là, le frère de maman Claudia pourrait se plaindre contre cette personne-là pour dénonciation calomnieuse. Alors, si c'est dans le cas de figure où le plaignant avait effectivement ciblé l'autre personne qui aurait dû être arrêtée en lieu et place du frère de maman Claudia, là, il y aurait eu une erreur sur la personne commise soit par les agents d'exécution de ces mandats d'amener-là, et donc ce serait eux qui seraient devant leur responsabilité du fait de n'avoir pas pris toutes les dispositions idoines pour mieux cerner la personne qui a été visée par la pièce des procédures, en l'occurrence les mandats d'amener.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous avons en ligne Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ouais. Monsieur Jody, vous savez, d'après les codes des procédures judiciaires, la police peut placer une personne à garde à vue lorsqu'il y a des motifs vraiment qui sont vraiment valables ou des motifs à craindre. Mais ce que nous voyons dans notre pays, il y a même des cas là qui se passent. Vous allez voir la personne qui est placée même à garde à vue pour des motifs qui ne sont pas même aussi valables. Mais je pourrais un peu poser un peu de questions à notre invité, de petites questions. Je pense qu'il pourrait me répondre. La première question, quelle est la durée d'une garde à vue? Et puis pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour combien d'heures? Et quels sont les motifs aussi d'une garde à vue? Et puis comment se passe une mise à garde à vue lorsqu'on voit les locaux sont dans des états qui ne sont pas bons, ou lorsqu'on arrête une personne, on part avec lui dans un cachot du coin, directement quand on lui fait entrer, il y a même les gens qui sont aussi de l'intérieur qui commencent encore à les menacer pour lui demander même de l'argent. Il peut même faire même du n'importe quoi sur lui, sans toutefois que la police aussi puisse intervenir. Puisque dans ces cas-là aussi, la personne aussi peut se trouver aussi à l'aise aussi longtemps qu'il est dans l'état de garde à vue. C'est ça aussi mes questions que je demande à notre invité.
D'accord, merci. Nous parlons aujourd'hui de ce que dit la loi congolaise à propos de la garde à vue. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire à Roger Marcel de Kinshasa?
Merci, M. Jody. La durée de la garde à vue, nous l'avons dit, elle est de 48 heures qui ne sont pas négociables, 48 heures non négociables et non susceptibles de prolongation. À l'issue des 48 heures, l'OPJ n'a que deux alternatives, soit relâcher obligatoirement la personne placée en garde à vue, soit conduire cette personne auprès de l'autorité judiciaire compétente, en l'occurrence le ministère public, c'est-à-dire le parquet, conduire la personne au parquet. C'est comme ça qu'on a toujours remarqué que lorsque quelqu'un a été détenu à la police, il s'ensuit son transfèrement devant le parquet du ressort. Et la troisième alternative, c'est le paiement d'une amende transactionnelle lorsque l'OPJ, après toutes ces enquêtes-là, estime que déférer l'intéressé devant le parquet le déférerait devant le juge et le juge se limiterait à prononcer une peine d'amende. L'OPJ peut proposer à l'inculpé de payer une amende transactionnelle. C'est une proposition, l'OPJ ne s'impose pas. Il fait cette proposition de paiement d'une amende transactionnelle, c'est-à-dire l'infracteur ou les présumés infracteurs transigent pour que soient arrêtées les poursuites. Évidemment, le paiement aussi de l'amende transactionnelle n'est pas une reconnaissance de la culpabilité. Il y a des gens qui payent des amendes transactionnelles juste pour éviter les désagréments d'aller et de revenir dans les locaux de la police ou que sais-je encore. Et ces amendes sont payées entre les mains d'un comptable du Trésor public, moyennant une procédure, et dans un certain délai, dans les 8 jours. Donc l'OPJ ne peut pas demander la prolongation ou ne peut pas de sa propre initiative proroger la durée de la garde à vue au-delà de 48 heures. Il n'a que ces trois alternatives, soit qu'il propose le paiement d'une amende s'il estime que les faits sont bénins, soit il relâche sans condition l'intéressé, ou soit encore il le fait acheminer devant le ministère public, c'est-à-dire au parquet.
Mmh. Un instant, et maître, on va accueillir Kaboulo depuis le Kassi. Bonjour. Kaboulo, vous êtes là, bonjour. Voilà, on me fait signe qu'il y a quelques soucis, il n'est plus en ligne. Allez-y, maître.
Alors, pour les infractions graves, l'OPJ, d'ailleurs, en lieu place de prolonger la durée de la garde à vue qui serait une détention devenue irrégulière, il ne peut que déférer l'intéressé devant le ministère public qui peut le plus, peut le moins, pour que l'officier du ministère public continue les enquêtes et établisse les responsabilités. Alors, notre auditeur a parlé de la mise en œuvre de la garde à vue par rapport aux conditions dans les locaux, les gens sont entassés, justement c'est là où les bas blessent, les locaux où doivent garder les détenus doivent être salubres, suffisamment aérés, mais malheureusement, il y a encore un bout de chemin à faire par rapport aux conditions carcérales en général. Il y a un bon bout de chemin à faire. Et le dernier aspect qu'il a évoqué, c'est l'aspect des brimades. Lorsque on a arrêté quelqu'un, il trouve, entre guillemets, des détenus presseyants, entre guillemets, lesquels se permettent parfois de les violenter, de les bousculer, de lui ravir des effets. L'OPJ qui place l'inculpé en garde à vue a l'obligation de protéger les biens de la personne. S'il avait sa montre, s'il avait son argent, s'il avait ses chaussures, l'OPJ a l'obligation de protéger ses biens pour ne pas exposer l'intéressé justement à ce genre de brimades. Et lorsque les agents commis à la garde des amigos font preuve de laxisme par rapport à ces brimades-là, lorsqu'on violente un nouveau arrivé en milieu de détention, c'est une attention coupable parce que ils ont l'obligation de protéger les personnes et leurs biens. Donc, quelqu'un qui est en garde à vue, c'est une personne humaine, une personne à part entière qui a le droit à protéger, à préserver et des droits dont la protection relève des services de l'État, chacun en ce qui les concerne. Donc, les policiers qui regardent, qui laissent faire, sont passibles des peines. C'est une abstention coupable et ils encourent une responsabilité. Ce sont des pratiques à décourager.
Mmh. Et généralement, pourquoi tous ces amigos, c'est toujours, les conditions hygiéniques sont toujours compliquées dans ces amigos-là?
Justement, il y a ce que la loi prévoit. Et il y a ce qui existe sur terrain. La loi prévoit que les lieux de détention doivent être salubres, suffisamment aérés, dans de bonnes conditions qui préservent la santé physique des intéressés, des personnes incarcérées, la santé mentale même. Mais sur terrain, le constat est amer. Ce sont des locaux très insalubres où il ne fait pas. C'est vrai que il ne fait jamais beau de vivre dans un milieu carcéral, dans un milieu de détention, quel qu'il soit. Mais nos milieux de détention en eux-mêmes là, ils laissent à désirer, ils laissent à désirer. Donc l'État doit prendre ses responsabilités en main pour justement préserver la santé physique, la santé mentale et les conditions de dignité des personnes à détenir dans ces lieux-là. Donc il y a du travail à refaire, entretenir ses amigos, les rendre salubres. C'est une obligation des pouvoirs publics. Une obligation des pouvoirs publics.
Maître Eric, qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager tous ces OPJ qui profitent des gardes à vue pour se faire une santé financière?
Je crois qu'il ne faut pas les ménager. Il ne faut pas les ménager. Il ne faut pas les traiter avec mansuétude parce que la RDC se veut être un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel c'est la loi qui guide toutes les actions de qui que ce soit. C'est un état dans lequel personne ne peut se permettre d'avoir de comportements hors la loi. Donc, fût-il OPJ, mais lorsqu'il se livre à ce genre de pratiques-là, c'est à décourager à travers des actions judiciaires. Il faut se plaindre, il faut se plaindre contre eux. Je crois que s'il y a des sanctions exemplaires, ça fera un peu la dissuasion. Parce que maintenant on arrête juste pour que demain on puisse demander des amendes qui prennent une destination bien connue. C'est pas le trésor public. Les amendes prennent une destination de poches individuelles et c'est à décourager. Et au besoin d'ailleurs, si on ne sait pas directement se plaindre sur le plan pénal ou civil par rapport au préjudice subi, il y a lieu de dénoncer chaque fois ces abus auprès du ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, parce que les OPJ exercent leurs attributions sous le contrôle du ministère public, qui à son niveau peut leur retirer l'habilitation. Et donc, quand on vous retire l'habilitation, c'est comme qui dirait, vous êtes un couturier à qui on retire l'aiguille avec laquelle il vous est permis de coudre. Donc, il y a de décourager ce genre de pratiques par des actions judiciaires ou même par des dénonciations auprès de leurs chefs hiérarchiques qui ont la possibilité, disais-je, de leur retirer l'habilitation ou de les sanctionner disciplinairement en tant que OPJ.
Bien, maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central, merci d'avoir participé à cette émission pour parler de la garde à vue, ce que dit la loi congolaise à ces sujets. Excellente journée et à la prochaine.
Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la prochaine, merci.